Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Avec Jean-Noël, c'est moi. Avec Carole, c'est elle.
Salut Jean-Noël.
Bonjour Carole.
Bonjour.
Je te sens rayonnante.
Et oui.
Gay.
C'est le fait
Qu'est-ce qui se passe ?
C'est le fait de revenir régulièrement dans ce studio tous les samedis. C'est la troisième fois.
Mais oui, parce que je t'avais croisé à un moment où tu n'es pas souvent dans ce studio. Tu étais terne, flétrie. Et là, je te sens.
Au moins.
Minimum. Et là, je te sens rayonnant. Tu rigoles comme ça.
Oui. C'est fou. Mais c'est ça, c'est de t'avoir retrouvé, de pouvoir parler avec nos auditeurs durant l'émission sur Graphite.
Et de leur apprendre pas mal de choses encore aujourd'hui. On va faire un petit peu. Alors, on va regarder le passé et on va regarder l'avenir également.
C'est comme c'est beau. Oui.
C'est ça, Biotine, l'émission de science et d'actualité scientifique tous les samedis sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Nous sommes le 15 février, alors c'est pas du tout drôle, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant depuis son lancement en 2002. Donc on a décidé le 15 février que ça soit la journée internationale.
Là je n'ai rien dit. Alors sachant que moi j'étais en train de me dire, donc le lendemain du 14 février, fête extrêmement commerciale, on met ça. Ok. Après, peut-être que ça n'a rien à voir. Je pense que les personnes qui ont inventé les différents événements ne se sont pas coordonnées, je pense.
Non, mais pourquoi faire ?
Pourquoi quoi ?
Pourquoi on devrait se coordonner ?
Je ne sais pas, mais peut-être pour pas passer. Oui, c'est vrai que souvent, ça passe du coq à l'âne en termes des journées de.
Tu sais, il y a des journées de tout et de n'importe quoi.
Oui, je sais.
Alors, je ne dis pas que là, c'est.
Mais bah là, cancer de l'enfant, c'est quand même important. C'est quand même important.
Non, mais. Donc,
Je sais pas.
Je sens que l'émission va être
trop de bonne humeur. Allez, c'est la journée de quoi aussi alors ?
Il n'y a que ça.
Il n'y a que ça. Ah, je ne peux rien faire. Il y a peut-être après des gens qui sont morts et qui sont nés ce jour-là.
Non, d'un point de vue science et technique, par contre, le 15 février est une journée assez importante parce que en 1954, le premier vaccin anti-polio est mis au point en Allemagne. En 1954, je pensais que c'était plus ancien en fait. Et toujours en 1954, les Français Houot et Villemont descendent à plus de 4 km de profondeur à bord de leur bathyscaphe. En 1961, c'est une éclipse solaire qui est visible notamment à Nice. En 1975, l'Union soviétique procède à une explosion nucléaire expérimentale pour déterminer si cette technique peut servir au percement de canaux. C'est vrai que ça vaut la peine. Plus proche de nous, le 15 février 2003, il y a un mouvement de panique qui s'installe depuis quelques jours en Chine après l'arrivée mystérieuse d'une maladie qui va s'avérer être l'agent principal du SRAS. Et oui, c'était le 15 février 2003. On en a parlé il y a 15 jours dans cette émission pour faire un point. Sur ces coronavirus.
Sur les autres, voilà, les coronavirus qui émergent de la Chine, oui, tout à fait.
Et donc, un mouvement de panique le 15 février 2003. Enfin, il y a 3 ans, le lanceur indien met en orbite 104 satellites. C'est un record mondial. L'Inde, il y a 3 ans, était quand même assez en plein essor au niveau de la conquête spatiale.
Oui.
Après, ça a un petit peu ralenti, notamment l'année dernière. Mais bon, ils vont revenir quand même sur le devant de la scène internationale au niveau de l'espace. Dès naissance, comme tu le disais, Carole, il y a des personnes qui sont nées un 15 février, notamment Roger Bruce Chaffee, né le 15 février 1935. Il est pilote américain, officier de la Navy. Il est sélectionné comme astronaute dans le cadre du programme Apollo. Il était scout dans sa jeunesse et Roger Chaffee obtient son diplôme. En 1953, il accepte une bourse d'études du corps de formation des officiers de la réserve navale. Il commence ses études universitaires à l'Institut de technologie de l'Illinois et il termine sa formation de prémise en service dans la marine. Il devient enseignant, il commence sa formation de pilote à la base aéronavale de Pensacola en Floride où il pilote divers avions. Il prend notamment des photographies aériennes cruciales de Cuba pendant la crise des missiles de Cuba pour lesquelles il reçoit une médaille d'honneur au niveau de l'armée. Il est promu lieutenant le 1er février 1966 et avec 13 autres pilotes, Roger Chaffee Chomsky est choisi dans le groupe d'astronautes de par la NASA en 1963. Il reçoit sa première mission de vol spatial en 1966. Et en fait, il fait partie des personnes de ces astronautes qui sont morts dans un incendie lors des essais préalables au lancement de la mission Apollo 1 à la base de lancement de Cap Canaveral. On se souvient de ça, c'était en 1967. Roger Chaffee, donc né à 15 février. Au niveau des décès à 15 février 2007, donc il n'y a pas longtemps, la mort de Robert Adler, ingénieur, inventeur américain, de famille juive et fuyant le nazisme parce qu'il est né à Vienne en 1913. Il a émigré en Amérique, aux États-Unis en 1937. Il est embauché par la société Zenith Electronics, qui est un fabricant de postes de télévision, où il va faire toute sa carrière. Et en fait, il a déposé pas moins de 180 brevets, Robert Adler, notamment celui de la télécommande. C'est lui qui a inventé la télécommande. Robert Adler, décédé récemment le 15 février 2007, il avait 96 ans, Robert Adler, pour cette éphéméride du 15 février. Alors, je vous disais tout à l'heure, on a aussi un petit peu, c'est ce qu'on avait fait pendant les émissions du mois de janvier, on avait un petit peu regardé en arrière et la décennie qui s'est terminée, et on avait un petit peu fait le point sur les découvertes scientifiques, sur notamment au niveau médical, sur les grandes avancées technologiques. On n'a pas fait un point sur les pires flops de l'innovation technologique pendant la décennie 2010. C'est ce que je vous propose.
Il doit y avoir des choses, non ?
Mais il y a des choses qu'on a... En fait, c'est assez intéressant quand j'ai vu cet article. C'était Futura Science qui a fait voilà, une série d'articles qui permettaient de faire un petit peu un point sur la décennie 2010. Effectivement, il y a des choses que l'on connaît mais qui n'ont pas du tout eu l'ampleur qu'on attendait. Par exemple, la télévision 3D. C'est-à-dire, objectivement, déjà, c'est Avatar qui est sorti en 3D en 2009 qui permet peut-être aussi un petit peu de lancer ce mouvement au niveau des fabricants de téléviseurs qui ont immédiatement voulu répliquer la technologie dans nos salons et qui ont donc lancé leur modèle 3D. Mais cet effet un peu waouh au départ est vite retombé. Il y a eu 1 300 000 télé 3D vendues en 2014 et puis ça baisse. Le faible nombre de contenus 3D, la contrainte du port de lunettes, une amélioration générale de l'image. Bref, il y a autant de facteurs qui expliquent que en fait, la mayonnaise n'a jamais pris auprès du grand public. En 2017, les principaux fabricants ont tous annoncé la fin de leur téléviseur 3D. Ça valait pas la peine d'en acheter. En plus, ça coûte est cher. Et voilà, c'est l'un des pires flops des années 2010. Autre flop également, c'est BlackBerry. En fait, en 2009, quand on voit cet article, on se rappelle plein de choses. On se dit bien sûr, parce qu'en 2009...
Petite dédicace à une personne qui nous écoute régulièrement sur, dans l'émission sur Graphite et qui a eu pendant jusqu'à très très récemment un BlackBerry. Donc oui.
Bah, ça te fait rire.
Oui, ça me fait rire. Parce
de toute façon, rien ne fait rire aujourd'hui.
Je lui dirais dans tous les cas d'avoir d'écouter l'émission.
Ben oui, parce qu'en 2009, BlackBerry vendait quand même un téléphone sur 5 dans le monde, ce qui est quand même pas mal en 2009. Et BlackBerry s'affichait comme le leader mondial. Et bien, 3 ans plus tard, sa part de marché avait dégringolé à 5%. Et en 2016, elle était tombée à moins de 0,1% en 2016. La marque canadienne annonçait cette année-là renoncer à produire de nouveaux modèles, se contentant de sous-traiter la fabrication à des sociétés asiatiques. Une des premières causes de ce flop retentissant tient en 6 lettres, c'est l'iPhone. Parce que BlackBerry a mal anticipé le succès de l'écran tactile, se comprenant à son sacro-saint clavier physique qui a perduré jusqu'à la fin. Et en fait, en plus avec la diffusion gratuite d'Android qui permettait à n'importe quel fabricant de concurrencer BlackBerry avec des modèles à bas coût, c'est des erreurs stratégiques de la direction de BlackBerry et qui fait que c'est l'un des plus gros désastres technologiques de la décennie. Effectivement, BlackBerry, moi j'en ai pas vu depuis belle lurette.
Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir des fois le rapport qu'on a avec les usages, c'est-à-dire que je me souviens que moi j'étais hyper attachée au clavier et il y a une époque où BlackBerry donc était à la mode
bien sûr.
Et je me souviens de m'être dit oh là là, je devais choisir entre 2 téléphones et je voulais absolument un BlackBerry et finalement au dernier moment je prends un téléphone avec Android et tactile et c'est là où j'ai franchi le pas. Mais j'étais hyper réticente donc en fait, et maintenant ça me semble tellement évident.
mais ça semble évident, mais à l'époque, c'est vrai que BlackBerry, en plus, il y avait aussi un côté un peu haut de gamme, quelque part,
tout
BlackBerry.
À fait. Ouais,
et ouais. Donc, du coup, voilà, c'était... Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez innovant, et peut-être parce qu'on n'osait pas franchir cette barrière du tactile, qui maintenant, effectivement...
Ça nous paraît la base.
Ça paraît la base. Autre chose, autre flop, ce sont les bitcoins et les crypto-monnaies. En fait...
Ça, c'est un flop.
Eh bien, le 17 décembre 2017, des analystes, des journalistes du monde entier s'enflamment sur la nouvelle révolution de la monnaie digitale et de la blockchain lancée en 2008 dans la foulée de la crise financière. Eh bien, le bitcoin est censé garantir à ses utilisateurs une monnaie mondialisée, non soumise aux banques centrales, transparente et ultra sécurisée. Il y a des universités, il y a des agences de voyage, il y a des chaînes de supermarchés qui annoncent alors accepter le paiement en bitcoin. Et dans son sillage, il y a des centaines d'autres crypto-monnaies qui voient le jour et on assiste à l'émergence des ICO, c'est-à-dire que les levées de fonds en crypto-monnaie censées contourner les lourdeurs réglementaires de la bourse apparaît à ce moment-là. La bulle éclate brutalement en 2018. En février, le bitcoin a déjà perdu la moitié de sa valeur et en décembre, il passe sous la barre des 3000 euros alors qu'il était à 16 000 euros un an avant. Malgré une remontée des cours en 2019, le bitcoin est depuis accusé de tous les maux, blanchiment d'argent, arnaque, piratage. Il serait aussi un gouffre énergétique et on peut le classer, en tout cas Futurations se le classe dans les pires flops des années 2010. Autre chose, moi j'en ai eu un récemment dans le cadre de mon travail, c'est le Windows Phone.
Ah, ok.
Et c'est pareil, c'est aussi un vrai flop, c'est-à-dire que à la fin, de toute façon, il n'assurait plus la permanence ou je ne sais quoi, c'est-à-dire qu'on était totalement laissé. Microsoft a carrément décidé d'abandonner le marché en 2017.
D'accord.
Et donc, du coup, il y a eu en fait une concurrence avec notamment Nokia, avec Samsung et autres qui fait que Windows n'a pas pu essayer d'émerger entre d'un côté système Android et l'autre, le système de l'iPhone,
L'iOS.
L'iOS, voilà, pardon, c'est ça que je cherchais. Et donc, du coup, pas de place pour tout le monde, peut-être des erreurs stratégiques. Un appareil qui n'était pas non plus hyper performant et le Windows Phone n'a pas eu la place qu'il aurait souhaité au départ, comme le Galaxy Note 7. Bien sûr, quand il est sorti en août 2016, eh bien, il a suscité les louanges des spécialistes. Par exemple, le Wall Street Journal l'avait nommé comme meilleur téléphone Android de tous les temps. Il avait un écran de 5,7 pouces, d'un scanner Retina, était accompagné d'un stylet. Le smartphone avait tout pour faire un carton et devenir la star de l'année. C'était avant la série noire des cas de combustion, voire d'explosion de la batterie à travers le monde. Deux mois à peine après le lancement, Samsung annonce l'arrêt de la production et les 2 500 000 appareils déjà vendus sont rappelés en catastrophe. Une opération à 1,6 milliard d'euros pour le géant coréen. Après une vaste enquête interne, il s'avère que les batteries étaient trop grosses pour la taille du téléphone, mais aussi qu'en voulant un petit peu hâter la sortie du modèle, eh bien Samsung a fait pression sur ses fournisseurs qui ont négligé les contrôles de sécurité. Bref, outre bien sûr le coût financier, l'affaire n'a pas pourtant affecté durablement la réputation des fabricants parce que finalement Samsung s'en est quand même sorti, même si le Galaxy Note 7 n'a pas fait grand feu. Autre chose, ce sont
quel
les...
humour.
Mais tout ça, tu sais, c'est du professionnalisme.
Bien sûr.
Les lunettes de réalité virtuelle aussi, les Google Glasses dévoilées en 2017, ce sont les lunettes de réalité virtuelle de Google qui étaient censées remplacer le smartphone avec leur caméra, leur micro, un écran fixé à la monture, une connexion internet, mais en raison du prix particulièrement élevé, 1 500 $, tu m'étonnes, du manque d'applications, des problèmes de vie privée, eh bien les Google Glass ne convainquent pas. En 2015, Google cesse les ventes au grand public, préférant se recentrer sur le marché professionnel. Le géant américain n'est pas le seul à avoir bu la tasse dans les réalités virtuelles. Ni Oculus, qui était racheté en 2014 par Facebook, ni HoloLens de Microsoft, ni les spectacles, peut-être que ça se dit en anglais, de Snapchat, n'ont réussi à rencontrer l'adhésion du grand public. La start-up Magic Leap, qui avait levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs prestigieux, a finalement présenté son casque de réalité virtuelle en août 2018. Selon les données qu'on avait pu recueillir, il ne s'en serait écoulé que 6 000 paires, alors que la start-up espérait en vendre au moins 100 000. Autre flop de cette décennie 2010. Il y a eu des belles choses, on en avait parlé dans des émissions début janvier, et puis il y a eu des choses moins glorieuses.
Mais c'est intéressant parce que finalement, là, en énumérant ces différentes technologies, il y a des choses qu'on a complètement oubliées, en fait. Et c'est vrai que je me souviens de l'époque pour les Google Glasses, où tout le monde en parlait, soi-disant, on allait tous être dans la rue avec, etc. Moi, j'ai complètement oublié depuis, et oui, bah, la preuve en est, ça n'a pas fonctionné. Donc non, c'est intéressant, beaucoup d'imagination en fait sur tout ce qui va être maintenant réalité virtuelle, augmentée, etc. Et finalement, dans toutes les technologies qui vont être inventées et mises sur le marché, il n'y en a que très peu qui vont perdurer. Finalement, après, c'est à l'épreuve du consommateur. Donc c'est intéressant.
Ouais. On nous parle aussi du crowdfunding également qui est passé de mode, on va dire aussi. Enfin, c'est aussi une partie de technologie également, mais voilà. C'était intéressant cet article de Futura Science parce que voilà, ça permet de faire un point sur des choses. Ben oui, des fois ça fonctionne pas, ça ne prend pas.
Et c'est ça. Il y a des bonnes idées, mais après, en effet, il faut que ça remporte l'adhésion du plus grand nombre. Parce qu'évidemment, si après ces marques-là ne réussissent pas à vendre leurs produits, bon, elles peuvent pas continuer les recherches. Enfin, ça ne sert à rien.
Toi, la télévision 3D, donc qui est le premier de cette liste qui est de Futura Science. C'est un peu étonnant parce que objectivement, c'est quand même assez innovant, sauf que la technologie n'a pas été jusqu'au bout en fait, et on a peut-être lancé ça beaucoup trop tôt, et finalement on s'est pas approprié assez le sujet parce qu'il y avait encore des défaillances. Peut-être que ça reviendra un petit peu plus tard.
Affaire à suivre, en début 2030, on
fera un point dans 10 ans.
Est-ce qu'on fait un point dans 5 ans, mi-étape?
Jamais, non jamais, d'accord. Jamais. On attend 10 ans et on donne rendez-vous aux auditeurs en 2030 sur l'antenne de Graphite. De quoi nous parles-tu? Où nous emmènes-tu?
Alors, de mon côté, puisque j'aime beaucoup les animaux, cette fois-ci, une thématique un peu plus...
Plutôt mijoté?
Non, plutôt vivant.
Plutôt vivant, d'accord.
J'ai donc une thématique un peu plus légère, mais toujours... qui va parler de comportement animal et donc de nos amis les vaches, hein, comme je le disais à la fin de la dernière émission. Donc c'est une étude qui a été menée et c'est le journal The Independent qui en parle sur donc les meuglements, les mugissements, en tout cas les cris de nos chers amis.
Parce qu'on dit quoi? C'est un meuglement, un mugissement? C'est les deux qui sont acceptés?
Les deux se disent, je crois. En tout cas, je vais dire les deux là dans l'article. Donc j'espère que le comité international de la grammaire et de l'orthographe français, c'est le vocabulaire, me valide. Alors, ce qui a été donc mis en évidence, c'est qu'en fait, les vaches, quand elles communiquent entre elles, elles donneraient des indications sur comment elles se sentent. Donc en termes d'émotion, émotionnellement parlant, au niveau, donc ça s'entendrait dans leur meuglement. C'est le sujet de cette étude extrêmement sérieuse, sachant que donc les animaux ont des caractéristiques vocales qui leur sont propres et pourraient donc comme ça modifier finalement leur façon de parler, je mets des guillemets, mais c'est ça l'idée, en fonction de leurs émotions. Et ça, c'est donc une étude menée par l'Université de Sydney et l'auteur principal, Alexandra Green, qui nous en parle et qui dit que, bien sûr, les vaches, on le sait, sont des animaux grégaires, des animaux sociaux et que finalement, on a un sens, c'est pas si surprenant que ça, que finalement leur identité individuelle puisse comme ça être visible tout au long de leur vie et s'entendre dans leur voix quelque part, et donc sous forme de meuglement, puisqu'il s'agit de vaches. En fait, c'est la première fois qu'ils ont été capables d'analyser donc les différentes voix de vaches et d'avoir ce type de conclusion et ce type donc d'évidence, ce type de trait qui a été identifié. Puisque l'étude a montré que les vaches utilisent leur voix pour maintenir le contact au sein du groupe et exprimer en fait différents sentiments. Alors, ils en ont cité plusieurs, comme l'excitation, le niveau d'éveil, l'engagement, la détresse. Donc voilà, différentes choses. Et donc Alexandra Green nous dit, en fait, elles ont toutes des voix réellement distinctes. Comme elle a beaucoup travaillé en fait avec ces animaux-là. Elle dit que même en fait, sans regarder le groupe, elle était capable de dire quelle vache était en train d'émettre un son simplement en fait en reconnaissant sa voix. Et ça, si on... Non, mais en tout cas, si on discute avec...
Bien sûr, mais comme des chiens,
si,
ouais.
Pour d'autres... voilà, si on discute avec des éleveurs, des bergers, etc., oui, ou ne serait-ce que pour nos animaux de compagnie, les personnes qui les côtoient, les êtres humains qui les côtoient au jour le jour sont capables de bien faire sûr la différence. Donc, ça paraît en fait assez logique, mais là, ça a été prouvé. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enregistré et analysé, en fait, tous leurs cris, leurs appels, et pour essayer, en fait, de déterminer à chaque fois, en fait, quel était leur état d'éveil ou leur état d'excitation en fonction de certaines situations. Donc après, on imagine l'étude est plus complexe. Hein. Là, vraiment, on décrit les principaux résultats. Alors, les études précédentes avaient déjà pu montrer, en fait, entre eux, donc les mamans vaches et leurs petits veaux, que justement, il y avait une communication, en fait, individuelle et spécifique dans leur mugissement. Ça avait déjà été montré. Je sais qu'à l'époque où je faisais encore de l'éthologie, il y avait pas mal de recherches comme ça sur le lien parent-enfant et qu'on pouvait mettre en évidence de pas mal de choses. Mais cependant, là, la nouvelle étude, donc menée à l'Université de Sydney, elle détaille de manière plus fine comment les vaches gardent en fait vraiment leur meuglement individuel tout au long de leur vie quand elles se parlent entre elles. Ils ont aussi montré hein, que les animaux donc, étudiés parlaient aux autres animaux du groupe pendant donc, toute leur période sexuelle active, quand aussi il y avait des interactions avec la nourriture et également quand ils étaient séparés du groupe. Donc c'est surtout dans ces moments-là qu'il y avait ces modulations qui étaient observées. Et donc cet article qui a été publié dans, dans la revue Scientific Reports, il a permis de se baser en fait, sur l'enregistrement et l'analyse de 333 échantillons de vocalisation de vaches, ce qui est énorme en fait. Il y a aussi eu tout un travail de collecte. Tu essayais d'imiter. Oui, parce que Jean-Noël est un peu enrhumé et ça peut donner l'impression
que je parle comme une vache. C'est agréable. Merci, Carole.
Un petit meuglement, un petit mugissement. Alors, en fait, donc un autre chercheur, hein, Cameron Clark, qui est dans la même université, donc parle des recherches et dit qu'en fait c'était une super inspiration et que c'est comme si elle, j'aimais bien la métaphore en fait, que c'est comme si elle était en train de construire un Google Translator pour les vaches. Donc c'est voilà. Mais on peut imaginer qu'en effet, au sein de ces 333 échantillons, il y a vraiment de la matière à analyser. Alors, l'objectif hein, de cette étude pour Alexandra Green, c'est surtout d'aider en fait, les éleveurs de pouvoir comme ça définir les états émotionnels de leur bétail et d'améliorer par ce biais, cette compréhension plus fine, leur bien-être. On sait que maintenant, beaucoup de recherches en éthologie au niveau des animaux d'élevage se font sur l'axe bien-être. Alors après, il faut regarder dans le détail, mais on va dire que c'est un principe louable au départ. Il faut voir l'application derrière. Et surtout, le dernier point important, c'est qu'en fait, cette étude, elle permet vraiment de montrer de manière irréfutable que les animaux communiquent entre eux à partir de façons qui peuvent être similaires à ce qu'on observe chez l'être humain. Parce qu'on a quand même longtemps essayé de faire une séparation, de dire que c'était très différent. Et là, par des études complètement scientifiques, on arrive à montrer qu'en fait, la façon de communiquer, le langage humain, ne dévie pas tant que ça de la façon dont les animaux parlent entre eux et que des mêmes caractéristiques peuvent exister justement au sein du règne animal. Donc, bien à sûr creuser. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment des avancées et des découvertes assez intéressantes sur ce type de sujet dans les années à venir.
Bien sûr, c'est intéressant parce qu'on ne parle pas souvent des vaches en fait dans cette émission. Il n'y a pas souvent des études.
Mais j'aime bien mettre ce type de sujet à l'ordre du jour.
Je vois, il faut que tu viennes plus souvent, comme ça on parlerait des vaches plus souvent. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique, technique, médicale. On parle d'espace, on parle d'animaux. J'ai oublié de dire qu'on retrouvera également tout à l'heure Anne Fleur juste après le titre qu'on va écouter maintenant pour la rubrique InnoCity. Donc voilà, Anne Fleur également qu'on retrouvera. Mais là, pour l'instant, Carole, je te propose une petite pause musicale et tu nous emmènes où après ?
Dans le sang.
Dans le sang.
Dans le sang humain.
Ah d'accord, je cherchais la région du sang, je ne voyais pas où c'était. Donc, tout de suite après, le sang sur l'antenne de Graphite. All right.
Graphite 94.9 FM, également disponible sur graphite.net.
Et c'était All Right de Stuck in the Sound sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. Biotine tous les samedis entre 12h et 13h vous permet de faire un petit peu le point sur l'actualité scientifique au sens large. On parle de technologie, on parle de recherche médicale, on parle d'espace, on parle d'animaux. On parlera tout à l'heure aussi de jeux parce que la science peut aussi se découvrir par les jeux également. Et puis on parlera aussi de DinoCity avec Anne Fleur, mais tu nous parlais du sang juste avant.
Oui, alors tu m'as prise au dépourvu, donc la transition.
Mais j'aime bien te prendre au dépourvu comme ça, parce que comme ça tu es spontanée.
Oui, tout à fait. Alors oui, je voulais faire un petit focus santé, mais cette fois-ci sur plutôt une découverte, hein, pas quelque chose d'anxiogène comme le coronavirus dont on a pas mal parlé, et parler d'une découverte scientifique au sujet d'un nouveau composant dans le sang. C'est ce que nous relate Futura Science fin janvier. Parce que le sang, hein, on pense quand même bien le connaître, qu'il y a eu énormément de recherches dessus. Eh bien, est-ce qu'il ne contiendrait pas en fait des éléments jusque-là indétectables ? C'est ce que montrent les travaux d'une équipe de chercheurs de l'INSERM qui, pour la première fois, ont mis en évidence la présence dans la circulation sanguine de mitochondries complètes et fonctionnelles. Alors les mitochondries, je le rappelle, pour ceux qui ont raté leur cours de biologie de première année.
Ce qu'est une mitochondrie.
On l'apprend même peut-être avant d'ailleurs. Ce sont des organites situés dans les cellules eucaryotes. C'est le lieu de la respiration cellulaire. Elles sont en fait en quelque sorte les batteries des cellules et jouent un rôle majeur dans le métabolisme énergétique. Et elles ont la particularité de posséder leur propre génome qui est transmis uniquement par la mère, hein, on le rappelle, et distinct de l'ADN contenu dans le noyau. Donc voilà pour le petit rappel cours de science. Alors, ces organites n'étaient jusqu'à présent retrouvés hors de ces dernières hein, que dans des cas très particuliers, c'est-à-dire sous forme de, donc hors des cellules, que sous forme de fragments encapsulés dans des microvésicules ou encore libérés par les plaquettes dans l'espace extracellulaire. Eh bien, les travaux d'une équipe de recherche dirigée par Alain Hertieri, qui est chercheur INSERM à l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier, viennent bouleverser les connaissances sur cet organite, en révélant que des mitochondries extracellulaires complètes et fonctionnelles donc, se trouvent en circulation dans le sang. Ces résultats viennent de paraître dans The FACEB Journal et ils apportent des connaissances inédites en physiologie et ouvrent la voie à de nouvelles pistes thérapeutiques. Alors, les chercheurs se sont appuyés sur des résultats antérieurs ayant montré que le plasma sanguin d'un individu en bonne santé contenait jusqu'à 50 000 fois plus d'ADN mitochondrial que d'ADN nucléaire. Ça, c'est leur point de départ. Et leur hypothèse, eh bien, c'était que pour cet ADN mitochondrial soit détectable et qualifiable dans le sang, il doit être protégé par une structure stable. Afin d'identifier cette dernière, eh bien, une centaine d'échantillons de plasma sanguin ont été analysés. Les analyses ont alors révélé la présence dans la circulation sanguine de structures hautement stables contenant des génomes mitochondriaux entiers. Après examen de leur taille, de leur densité ainsi que de l'intégrité de l'ADN mitochondrial qu'elles contenaient, ces structures se sont révélées être des mitochondries intactes et fonctionnelles. C'est là qu'ils ont été surpris. Hein. Et donc Alain Hertieri nous dit « Lorsqu'on considère le nombre élevé de mitochondries extracellulaires que nous avons trouvées dans le sang, on peut se demander pourquoi cela n'a pas été découvert auparavant. » Oui, comme quoi, hein, c'est ce qu'on répète à chaque fois, on sait que la moitié de ce qu'on apprend est faux. Mais on ne sait pas quelle moitié. Cette phrase, je l'entendais souvent lors de mes études.
C'est assez joli, assez juste.
Donc alors là, c'est juste, on savait beaucoup de choses sur le sang, mais on n'a pas fini de découvrir. Alors, quel est le rôle de ces mitochondries extracellulaires, hein? C'est la question qu'on se pose quand on sait ça. Alors, la réponse pourrait être liée à la structure de l'ADN mitochondrial, qui est similaire à celle de l'ADN bactérien. Ce qui lui confère la capacité d'induire des réponses immunitaires et inflammatoires. Partant de ce constat, les chercheurs avancent l'hypothèse que ces mitochondries circulantes pourraient être impliquées dans de nombreux processus physiologiques et ou pathologiques nécessitant une communication entre les cellules. En effet, des études récentes ont démontré la capacité de certaines cellules à échanger des mitochondries entre elles, comme par exemple les cellules souches avec des cellules endommagées. Dans ce cas, le chercheur nous précise, les mitochondries extracellulaires pourraient effectuer plusieurs tâches en tant que messagers pour l'ensemble de l'organisme. Donc c'est vraiment intéressant. Et en plus de son importance pour les connaissances en physiologie, cette découverte, elle pourrait conduire à une amélioration du diagnostic, du suivi ou du traitement de certaines maladies. On pense par exemple en fait au cancer, puisque l'équipe de recherche elle se penche à présent en fait sur l'évaluation des mitochondries extracellulaires en tant que biomarqueur dans le diagnostic prénatal non invasif, mais aussi justement pour le cancer. On sait qu'on cherche à avoir des méthodes beaucoup plus fines pour les cancers, soit de marqueurs pour les identifier, soit ensuite pour les cibler et pouvoir détruire les cellules cancéreuses. Eh bien, peut-être que ces mitochondries pourraient être une porte d'entrée à l'amélioration des traitements.
Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que on découvre aujourd'hui encore des choses dans le sang, c'est quand même assez, et que là, ça nous donne des perspectives vraiment intéressantes. En fait, et dans le domaine médical, récemment, c'est pas trop une piste qu'on évoquait en fait.
Non, tout
même
à fait.
Si les mitochondries, des fois, on en parle dans cette émission. C'est vrai que c'est pas facile d'expliquer ce qu'est une mitochondrie, à quoi elle sert, mais on soupçonne que c'est vraiment un terrain d'investigation assez important et que du coup, là, cet article l'évoque clairement, mais il est un peu rare cet article en fait. Il n'y en a pas énormément, alors qu'on.
Ou sinon, faut être spécialisé du sujet et s'intéresser vraiment.
Être spécialisé. Mais oui, tout ça pour dire qu'au niveau de la communication, parce qu'après tout, c'était émission, elle est là aussi pour relayer un petit peu les articles qui sont diffusés et donc communiqués. Dans ce domaine-là, c'est certain qu'il y a plein de recherches qui sont engagées, mais finalement, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, en fait. Et là, ça permettait d'avoir un point d'étape intéressant. Parfait, bah, comme ça, on sait où on en est aujourd'hui et on sait qu'il y a encore pas mal de choses encore à découvrir. C'est tout l'intérêt de ce genre d'article. Alors moi, je parle de quelque chose qui est quand même beaucoup plus léger parce que des fois, il faut être un peu léger.
Oui.
Et dernièrement, il y a un jeu vidéo qui a été créé à l'initiative des membres du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et aux énergies alternatives. Parce qu'avant, le CEA, on s'arrêtait à énergie atomique. Et récemment, ils ont ajouté énergie alternative. Ça tombe bien, parce que ça fait EA également. Donc, c'est parfait. Et ce jeu vidéo est sorti en octobre 2019 à l'occasion de la fête de la science. Il se nomme Le Prisonnier Quantique. Son objectif est d'attirer et de sensibiliser les jeunes aux métiers et aux enjeux de la science. Et ce n'est pas surprenant d'utiliser justement ce média dans ce but, lorsqu'on sait que près de 90% d'entre eux, à savoir entre 18 et 24 ans en France, passent du temps à jouer à ces jeux. Donc c'est vrai que c'était peut-être un bon moyen de pouvoir les toucher un petit peu plus. Il est nullement nécessaire d'être un crack en science pour se lancer dans l'aventure avec ce jeu vidéo. En effet, il est destiné à un très large public, bien qu'il soit probablement plus profitable à des élèves de fin de collège ou début du lycée. D'ailleurs, comme l'explique le CEA sur son site, des enseignants et des médiateurs scientifiques peuvent l'utiliser avec des fiches pédagogiques réalisées en partenariat avec le réseau Canopée, qui est un espace justement au niveau de la pédagogie assez bien développé. Pour réussir ce jeu, il faut résoudre plus de 30 puzzles qu'accompagnent des interviews vidéo des chercheurs du CEA ayant participé à leur conception et qui fournissent des explications supplémentaires. Alors, il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi des modes de pensée qui relèvent de la démarche scientifique. C'est ce qu'indique l'un des chercheurs qui a participé en tant que conseiller à la création de ce jeu, l'astrophysicien Roland Lehoucq. Il explique en fait que le scénario du prisonnier quantique fait intervenir la fameuse intrication quantique dont on parle beaucoup de nos jours quand il s'agit des ordinateurs ou de la téléportation quantique. Il y a même un lien avec les travaux du physicien argentin Juan Martín Madalcena au sujet de l'intrication quantique en rapport avec la physique des trous noirs. Ouh là là là, ça a l'air d'être hyper compliqué ce jeu vidéo, non? Mais non, qu'on se rassure, inutile d'être un expert en théorie des cordes de l'holographie ou de pouvoir résoudre le paradoxe de l'information des trous noirs pour jouer à ce jeu. Il est accessible, ce jeu, à partir de 8 ans. Alors effectivement, on n'est quand même pas trop des adeptes des théories quantiques à 8 ans, mais on pourra jouer ce jeu. Alors ce jeu, c'est quoi le scénario? C'est quoi le pitch? Zoé est une jeune femme curieuse qui s'ennuie un peu dans son job d'été, jusqu'à ce qu'on l'envoie fouiller une vieille ferme à l'abandon. Zoé y découvre un carnet de laboratoire laissé par un certain Artus Kropp, un physicien mystérieusement disparu dans les années 60. Le carnet évoque une découverte incroyable, mais s'arrête brutalement durant une expérience. Quelle est cette fameuse découverte? Qu'est-il advenu du savant ? Eh bien, il n'en faut pas plus pour lancer Zoé à la recherche de l'héritage d'Artus Krop. Mais tout au long de sa quête, elle devra se sortir d'embûches qui semblent avoir été semées pour l'empêcher de découvrir la vérité. Pour avancer dans son enquête, eh bien, le joueur devra résoudre une trentaine d'énigmes en lien avec les sciences et les technologies. Et le titre évoque la physique quantique, bien sûr, une discipline surprenante des sciences. Le jeu est à l'image du CEA, c'est-à-dire pluridisciplinaire, parce qu'il aborde les sciences et les technologies au sens large, la physique, la chimie, l'énergie, la science du vivant, le climat. Bref, un peu comme Biotine en clair, mais voilà, vous pouvez jouer au prisonnier quantique, renseignez-vous sur le site du CEA, cea.fr. Je t'ai donné envie de jouer ?
Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Et voilà, il commence à prendre un petit peu d'importance et c'était intéressant de pouvoir parler de vulgarisation scientifique par le biais d'un média inédit dans ce domaine-là. Donc c'était voilà, le prisonnier quantique.
Merci pour cette découverte.
Et puis on va partir. Alors j'espère que cette fois je vais aller dans le... Oui. Je me trompe des fois avec Anne Fleur, parce que Anne Fleur, je ne sais pas ce qui se passe, j'enregistre peut-être pas les bons numéros, les bons fichiers, mais en tout cas ça devrait le faire. Donc normalement, Carole, nous restons en Europe. On va aller en Europe du Nord quand même. Et avec InnoCity, la rubrique d'Anne Fleur, elle choisit une ville et elle nous fait découvrir les inventions qui y sont créées. C'est à toi, Anne Fleur.
Good morning, Compiègne. Bonjour, Jean-Noël. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai toujours encore un peu la voix un peu cassée. Mais j'espère que vous me pardonnerez. Je continue un peu mon tour du monde des destinations pas chaudes, puisque aujourd'hui, c'est direction la Norvège, et plus précisément au cœur d'Oslo, sa capitale, que nous nous rendons. Alors c'est parti pour la balade. La première invention dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de l'aérosol. Vous savez, de ces cannes de peinture, par exemple, sur lesquelles on va aller appuyer sur le petit pchit en haut et qui vont nous faire du spray. Il s'agit en fait de l'invention d'un certain Eric Rotheim qui a développé d'ailleurs un brevet pour cette invention à Oslo en 1927. C'était un ingénieur en génie chimique et cette technologie en fait a trouvé bien après toutes ses applications. Donc comme je vous le disais par exemple la peinture en spray mais aussi l'utilisation de produits particuliers afin de nous protéger des insectes. La seconde invention dont je vais vous parler c'est certainement quelque chose que vous avez tous quand vous allez au bureau, vous êtes tous servis, vous en avez peut-être aussi à la maison, il s'agit du trombone. Alors bien sûr, c'est peut-être pas l'invention du siècle, c'est peut-être pas le truc le plus technologique, mais donc il s'agit bien du Norvégien Johan Valer qui a inventé et reçu les brevets pour donc le design du trombone. Les brevets donc en Allemagne en 1889 et aux États-Unis en 1901. Voilà, c'est court. Je pourrais vous montrer le design d'ailleurs original qui est vraiment... qui est quand même vachement canon quoi. Bon voilà, après je sais qu'on parle d'un trombone mais c'est comme ça. Alors l'autre invention dont je vais vous parler, il s'agit un petit peu de sport et d'alliance de sport et de technologie. Il s'agit du ski télémarque. Le ski télémarque, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne connaissais pas personnellement, c'est en fait un ensemble de techniques du ski alpin et du ski de fond. Donc où on va avoir donc du ski de descente, je dirais, avec le talon libre qui est donc non fixé au ski. Et en fait, ça permet d'exécuter des virages. Et là, je lis Wikipédia, harmonieux, dit virage télémarque. Et le virage télémarque s'effectue donc par un fléchissement de la jambe intérieure. Et oui, messieurs dames, c'est l'une des plus anciennes techniques de ski inventées donc en 1868 par le comte de Télémarque en Norvège. Et donc en fait. Voilà, je ne vais pas vous faire l'histoire du ski. Le ski, ça remonte à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais le Télémarque, en fait, donc, il doit son nom à cette région de Norvège, donc il est originaire. On l'appelle Télémarque, en fait, par opposition aux techniques Christiana, du nom d'un autre site d'ailleurs de Norvège. Son apparition date de 1868. Voilà, je trouvais que c'était intéressant. C'était un petit peu de saison. Vous pourrez penser à tout ça et le ressortir lors de votre soirée raclette en rentrant du ski. En parlant de fromage, alors je vous promets que j'ai même pas fait exprès, mais c'est quand même une sacrément bonne transition. Alors, les Norvégiens sont particulièrement fiers de cette invention. Ils appellent ça la Norway's crème de la crème invention. Et donc, il s'agit bien entendu du rabot à fromage. Le rabot à fromage, c'est quoi ? C'est un ustensile de cuisine qui est destiné à la découpe en fines tranches de fromage à pâte dure. Alors, bien sûr, en tant que Français, on est carrément reconnaissant, quoi. Cette invention, on la doit à un certain Thor Bjørklund. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cet homme...
Oh non, Anne-Fleur, tu me fais péder.
C'était en fait un charpentier. Après plusieurs expériences, en fait, il a commencé à... Enfin, il a trouvé vraiment un design qui faisait que ce rabot à fromage ressemblait un petit peu... presque à un avion, en fait. Et ça en faisait un candidat un peu parfait pour couper du fromage en tranches. Donc Thor, l'inventeur, a déposé donc un brevet pour ce que nous connaissons aujourd'hui, le rabot à fromage. Et ce brevet date de 1925. Et là, vous voyez, devant moi, là, sous mes yeux, le design original. Et honnêtement, ouais, c'est exactement le même que ce que je connais aujourd'hui. Voilà, écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous dis à nouveau un grand merci d'avoir écouté cette chronique. Comme d'habitude, si vous avez des envies de destination ou de sujets en particulier que cette chronique pourrait aborder, n'hésitez pas à m'écrire tout simplement ou à le dire à Jean-Noël, il me transmettra. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'émission, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Eh ben ma pauvre Anne-Fleur, va te soigner parce qu'on voit que tu n'en peux plus. Elle est pire que moi. Encore moi, ça va,
Oui, on verra la semaine prochaine. Mais
merci
bon.
En tout cas, Anne-Fleur. Et là, c'était bien Oslo. Effectivement, alors l'aérosol, je savais pas que c'était. Ça venait précisément.
Ni le rabot à fromage. Hein,
en fait, le rabot à fromage, je peine encore à bien comprendre à quoi.
Tu chercheras sur Internet.
Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Jean-Noël avec vous et avec Carole. Carole qui nous parle de.
Cette fois-ci, des glaces de l'Antarctique. Ça aussi, c'est un sujet.
On reste un peu dans les pays froids, quoi.
Oui, je trouve qu'en plus, on est bien. Là, on est en hiver. On a tous mis notre doudoune de ski. On est au coin du feu. On est prêt à manger notre raclette. Et on va parler des glaces de l'Antarctique. Alors, cette fois-ci, c'est pas pour dire qu'il y a la fonte des glaces, le réchauffement climatique, etc. C'est plus une découverte, en fait. Ce sont des chercheurs. Alors, c'est une info qui date de la fin d'année 2019, mais que j'ai trouvé assez intéressante. Des chercheurs ont découvert en fait un canyon s'enfonçant à 3500 mètres sous la surface de l'Antarctique. Et ce serait le point le plus profond de la Terre situé sous un plateau continental.
D'accord.
Alors, sous la surface glacée de l'Antarctique, hein, ce gigantesque canyon donc, qui serait le point le plus profond de la planète dans ces conditions-là, donc plateau continental, il a été découvert par une équipe internationale de chercheurs coordonnée par des glaciologues de l'Université de Californie à Irvine, aux États-Unis. Et ces chercheurs, ils disent en fait que ce canyon, dans les conclusions d'une étude très très sérieuse qui a été publiée dans la revue Nature Geoscience, donc c'est quand même prestigieux, étude spécialisée sur les profondeurs de l'Antarctique. Alors, ils le situent dans l'est du continent de glace, sous le glacier Denman. Et c'est lui, en fait, ce glacier qui a créé cette immense cavité, longue d'une centaine de kilomètres et large d'une vingtaine. Je ne sais pas si on se représente quand même, on est en kilomètres.
Non, on ne se rend pas compte.
Voilà, donc je pense qu'il faut le voir. Ce qu'ils nous apprennent, hein, et notamment comme l'explique Matthew Morlingham, qui est glaciologue, professeur à l'Université de Californie, donc à Irvine, et qui est l'auteur principal de cette étude, au fur et à mesure que les glaciers s'écoulent, avancent, reculent, ils creusent un lit. Et après des dizaines et des dizaines de milliers d'années, eh bien, ce phénomène peut créer des creux très profonds selon le rythme de l'érosion. Alors pour mémoire, un glacier se met en mouvement sous l'effet de son propre poids et de son alimentation en eau puis en glace. Et c'est ce que nous rappelle l'Académie de Grenoble. Alors logiquement, les scientifiques qui étudient les profondeurs de l'Antarctique savaient déjà en fait qu'une telle cavité se trouvait sous le glacier, mais ils n'avaient aucune idée de sa profondeur réelle. Donc c'est ça qui est intéressant. Et l'équipe internationale de chercheurs, donc dirigée par les glaciologues que j'ai cités précédemment, elle a réussi à estimer la profondeur de ce canyon dans le cadre d'un vaste travail de recherche visant à établir une nouvelle cartographie souterraine de l'Antarctique, baptisée donc Bed Machine Antarctica. Voilà. Il s'agit du. Non, j'essaie de savoir si j'allais dire quelque chose sur le nom, mais non.
T'as l'air d'être totalement convaincu, mais non.
Il s'agit en fait d'une carte montrant en détail le relief souterrain de l'Antarctique. Et pour la mettre au point, les scientifiques se sont tout d'abord appuyés sur des travaux menés par 19 institutions scientifiques différentes depuis 1967, dont des images satellites, des données récoltées à l'aide de radars, etc. Mais sous la surface donc, des océans de la planète, il n'y a pas en fait que ce type de formation finalement profonde que ce canyon qu'on a découvert en Antarctique, puisqu'on le cite quand même, pour finir, quelques exemples d'abysses très très profondes. La fosse des Mariannes, qui s'ouvre dans le plancher océanique sous le Pacifique et qui abrite le point qui est considéré comme le plus profond du monde, baptisé Challenger Deep. Voilà. Alors d'ailleurs c'est difficile de savoir en fait à quelle profondeur il se situe exactement tellement c'est profond. Ça avait fait d'ailleurs l'objet d'une polémique en fait entre les deux rares personnes à avoir explosé ces abysses, une polémique récente entre l'américain Victor Vescovo et le canadien James Cameron, pas le réalisateur.
On a bien compris.
Mais donc le premier avait annoncé avoir plongé à 10 928 mètres de fond. Et le second, 10 908. Donc on se bat pour 20 mètres. Le deuxième, du coup, soutient qu'elle est plus profonde que 10 908. C'est impossible. Voilà. Donc après, on part dans les concours. On peut aussi citer le trou artificiel le plus profond de la Terre, qui lui s'enfonce à 12 262 mètres sous le niveau de la mer. Il s'agit du forage de Kola. Donc c'est quand même impressionnant d'avoir pu réaliser ce trou avec une machine humaine, en fait. Et qui est situé dans le nord-est de la Russie. En fait, les autorités soviétiques ont commencé à creuser en 1970 dans le but d'en savoir plus sur la croûte terrestre. En 1994, des chercheurs y ont découvert des roches vieilles de 2,7 milliards d'années, dont la température tourne autour de 180 degrés. Donc là, on pense un petit peu à Jules Verne et à tout cet univers, on n'en est pas loin. Alors, à voir, qu'est-ce que ce fameux canyon, aux proportions quand même assez vertigineuses, nous permettra d'apprendre peut-être sur du coup, les souterrains de l'Antarctique.
C'est aussi un endroit où on ne va pas souvent dans cette émission, donc c'est bien, ça nous dépayse un peu. Je crois que c'était lors de l'émission de la semaine dernière où je vous parlais de cette batterie qui était ultra fine, qui était pliable, qu'on pouvait notamment utiliser pour les vêtements connectés ou autres. Et je vous ai dit que le domaine de recherche aussi très important en ce moment, c'est celui des batteries. Et on a quand même pas mal d'articles qui relaient des travaux de recherche dans ce domaine-là, et notamment celui-ci dans Futura Science, qui parle justement des batteries qui peuvent alimenter notre téléphone portable pendant 5 jours, mon Dieu, ça va être génial.
Ce serait extraordinaire.
5 jours sans avoir besoin de recharger la batterie de son smartphone, ou alors plus de 1000 km sans recharger celle de sa voiture électrique. C'est un rêve qui pourrait devenir réalité très bientôt, à en croire l'annonce de chercheurs de l'Université d'Australie. Il serait prêt à commercialiser dans les tout prochains mois une batterie lithium-soufre haute capacité qui offre de bien meilleures performances que les batteries lithium-ion actuelles. L'idée d'une batterie lithium-soufre n'est pas nouvelle, mais en fait elle présentait un inconvénient majeur, c'était sa durée de vie qui était trop courte parce que la capacité de l'électrode au soufre était tellement importante que celle-ci se brisait. 8 fois plus intense que les classiques batteries lithium-ion. Et donc, les chercheurs de l'Université d'Australie à Monac semblent avoir trouvé une parade. Ils ont redessiné les liaisons entre les particules qui constituent la cathode de soufre, avec pour objectif de les aider à mieux gérer des charges élevées sans perdre en capacité, en performance et en stabilité. Et pour cela, ils se sont appuyés sur une technique employée dans la fabrication de détergents en poudre. Une technique qui compte sur des ponts polymères pour améliorer la résistance à la fissuration des électrodes. Comme quoi, les détergents en poudre mènent à tout, et notamment dans le domaine des batteries. Résultat, une batterie 4 à 5 fois plus efficace que ses concurrentes sur le marché, tout en étant simple à fabriquer et peu coûteuse. Des tests en laboratoire ont déjà été concluants, et d'autres sont prévus grandeur nature sur des voitures électriques, sur des réseaux photovoltaïques dès cette année 2020. Mais voilà, une batterie qui pourrait alimenter notre téléphone pendant 5 jours. Ça, c'est le premier article. Et le deuxième, rapidement, eh bien, on parle encore un petit peu de ce Las Vegas Show, hein, le Consumer Electronics
Show.
Ça
n'en finit pas, ça n'en finit pas.
Jamais. J'en ai pour 3 mois à chaque
c'est
fois.
Vrai.
Tout simplement pour dire qu'il y avait également une présentation d'un chargeur sans fil pour les iPhones, pour tout l'environnement iPhone, en fait, les AirPods, la
ça
e-watch.
Ça n'existait
également.
Pas déjà, ça commençait pas.
Un chargeur sans fil. Parce que c'est-à-dire toi, en fait, par induction, ça existait.
Ah oui.
Et là, c'est l'idée. Alors, tu veux que je te lise l'article?
Oui, je veux en savoir plus.
Il faut que tu aies du temps après. J'ai pas eu le temps de reprendre précisément. En fait, il y a quelques problèmes qui existaient avec ce système de tapis de charge par induction, mais il y avait un système de surchauffe. Et
d'accord.
En fait, maintenant, ils ont pu essayer d'apporter des solutions pour éviter de régler ces problèmes de surchauffe notamment. Et la firme avait annoncé à un moment qu'elle n'y arrivait pas, et donc l'année dernière, elle avait carrément arrêté le projet. Eh bien, il y a un nouveau tapis qui a été commercialisé, qui devrait être commercialisé, et qui permettra de placer librement les appareils à charger, contrairement aux tapis existants dont les utilisateurs se plaignent souvent de retrouver leur appareil déchargé parce qu'ils n'étaient pas parfaitement alignés. Et donc là, on place la montre, on place les écouteurs, on place l'iPhone parce que ça reste dans un environnement Apple, où on veut sur ce tapis-là. Il n'y a plus de problème de positionnement précis. Le lancement de ce tapis de recharge est prévu pour cette année. Donc en fait, le projet redémarre et redémarre très fortement parce que finalement, pendant un an, il s'est arrêté. Mais en tout cas, on est maintenant plus trop dans l'aspect technique, mais on est plutôt sur l'aspect commercial parce qu'il va falloir maintenant rentrer en négociation avec les revendeurs. Mais en tout cas, la firme qui travaille, qui s'appelle Brad Bell, qui travaille sur ce domaine-là, explique que ça pourrait fonctionner également sur une recharge à distance. Ça pourrait fonctionner sur plusieurs mètres, mais qu'il faudra quand même attendre plusieurs années avant que la technologie soit prête. Donc là, on est sur du sans fil, mais proche, et on arriverait sur du sans fil, mais loin. Et ça, évidemment, c'est pas pour tout de suite.
Ouais, mais ça paraît assez extraordinaire.
Tu as 5 minutes.
Oui, alors, je voulais terminer sur un sujet très sympa, puisque il s'agit en fait d'archéologie cette fois-ci, et de chercheurs qui ont réussi à faire parler une momie vieille de 3000 ans. Alors on se dit, waouh, extraordinaire. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils ont utilisé certains rites magiques? Non, pas du tout. Hein. En fait, ils ont réussi à imprimer en 3D le tractus vocal d'un homme momifié depuis 3000 ans en s'aidant d'un larynx électronique, et ils ont réussi à lui faire prononcer un son. Donc ce sont des recherches qui ont été relayées par Science et Avenir. En fait, on peut imaginer, donc, dans ce laboratoire de recherche, hein, la voix d'un homme mort depuis 3000 ans qui s'est élevé, puisque des scientifiques américains et britanniques ont réussi à reproduire le son émis par cet individu qui a été momifié en fait en Égypte. Alors il ne s'agit pas d'un mot, mais plutôt d'un son sous la forme d'une voyelle. C'est ce qu'expliquent les chercheurs dans une étude parue le 23 janvier 2020 dans la revue Scientific Reports. Alors, cette momie, en fait, il s'agissait de Nesiamon. C'était un prêtre et un scribe égyptien travaillant au temple de Karnak à Thèbes sous le règne de Ramsès XI. Il est mort au milieu de la cinquantaine. Son corps a été momifié. Et en fait, ces tissus mous, donc vieux de 3000 ans, hein, je le rappelle, ont été incroyablement conservés, ce qui était évidemment une véritable aubaine pour les chercheurs. Ces derniers ont pu mesurer de manière précise les dimensions de son tractus vocal, donc larynx jusqu'aux cavités buccales et nasales, grâce donc à un certain type de scanner, c'est-à-dire c'est un appareil en fait à rayon X, hein, qui couplé à un ordinateur permet de fournir une imagerie en tranche d'une partie du corps. Les données obtenues ont ensuite permis l'impression 3D d'un tractus artificiel couplé à un larynx électronique, et il peut produire donc un son audible dans le tweet publié par l'agence Associated Press. Alors, je vous conseille du coup d'aller sur Internet. Après, si
bien
vous
sûr.
Tapez momie vieille de 3000 ans, vous allez tomber dessus pour entendre ce fameux son. Il faut savoir qu'une reconstruction en fait, de ce type, ça entraîne plusieurs difficultés. D'abord, les tissus mous du cadavre doivent être donc parfaitement conservés. Mais dans la plupart des cas, seul reste le squelette. Et même quand les tissus mous survivent, par exemple dans des restes momifiés, eh bien, le tractus vocal peut être manquant ou déformé. C'est ce que précisent les chercheurs. La seconde difficulté, c'est que le son produit, il est limité par la forme adoptée par le tractus vocal. Ainsi, en fait, une telle reconstruction, elle ne fournit pas de base pour la synthèse de la parole courante. Pour ce faire, il faudrait connaître les articulations du tractus vocal, la phonétique et les schémas de synchronisation de la langue donc de ce personnage. Évidemment, ses lèvres, sa langue n'étaient pas en position de prononcer une voyelle particulière. C'est juste ainsi qu'elles ont été conservées par la momification. Donc, ils ont essayé de faire avec ce qu'ils avaient quand même. Et cette reconstitution est quand même assez impressionnante. Donc, Nessie Hammon avait fait part de son désir, apparemment, de faire entendre sa voix dans l'au-delà afin de vivre éternellement. J'imagine qu'ils ont retrouvé ça dans des écrits ou dans son histoire. Et grâce à cette étude, on peut dire que l'objectif est atteint hein, et qu'on peut en fait démontrer la faisabilité de la méthode pour de futures recherches. Et c'est déjà pas mal, hein, finalement, de réussir toujours à faire parler de sa voix 3000 ans après sa mort.
Alors, mais ils ont eu beaucoup de chance parce que finalement, la conservation était
exactement
parfaite.
C'est ce qui a permis en fait de
pour
pouvoir.
Ça, je comprenais pas en fait la momie,
oui.
Mais évidemment, c'est génial. Ben, j'écouterai alors, j'irai voir sur internet.
Il faut aller écouter.
Pour écouter ce bruit qui vient du passé. On aura fait un tour dans le passé lointain, le passé récent, et on aura fait un tour aussi sur le présent et l'avenir. C'était Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Carole, on te retrouve la semaine prochaine.
Évidemment.
Eh ben, c'est
je serai là.
Eh bien, je serai là, moi aussi. On te retrouve samedi prochain, Carole. Merci à tous. Vous nous suivez sur graphite.net et sur 94.9. Je rappelle que sur le site internet, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Restez fidèles à Graphite. Bonne journée à tous. Au revoir.